30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, bienvenue aux infos choisies de 12h30.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 janvier 2022 et ça sera toujours mieux.
Et il est 12h30. Bienvenue.
Et alors, on avait envie de commencer avec des choses qui nous ont donné un peu de la force cette année. Et alors moi, ça fait plusieurs années qu'avec des potes, on fait un petit rituel de passage à la nouvelle année. Sur des papiers différents, on écrit trois choses dont on veut se débarrasser de l'année précédente. Et oui, seulement trois. Et alors franchement, c'était pas facile de choisir hein, quand on pense à 2021, avec la prolifération de discours réactionnaires, les réformes contre les pauvres, les urgences qui deviennent payantes, les embrouilles intergalactiques sur des listes mail, les frontières toujours plus meurtrières, bref, un gros bordel. Après, on jette ses papiers au feu. Bon débarras. Et ensuite, on écrit trois choses qu'on veut continuer à cultiver pour l'année suivante. Des choses qui nous donnent de la force et qu'on a envie de garder. Des choses qui nous permettent de continuer à avancer. Et ben, figurez-vous que j'ai trouvé que là aussi, trois, c'était très peu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, dans toute cette merde qui nous entoure, il y a quand même les infos qui ont lieu tous les vendredis.
Et oui.
Et ça, quand même.
Deux ou trois choses dont je suis sûre de Dorothy Allison qui a été traduit en français. Des proches qui ont gagné contre la maladie, d'autres contre la solitude. Mansfield Tia, qui continue à faire des tournées. Les permanences Alarmphone, qui se sont jamais arrêtées. L'actu des oubliés, qui propose une deuxième saison sonore sur des luttes au Balkan, au Soudan et dans bien d'autres endroits. Et puis, il y a ce vieux groupe d'amis, qui continue d'exister et de traverser ensemble des petites tempêtes, en se serrant bien fort et en se donnant beaucoup d'amour. Il y a ce groupe de camarades, qui malgré la dureté du monde, continue à faire et à sentir avec joie. Il y a ces gens qui se connaissent un peu, pas très bien, mais qui ont envie de se lancer dans une nouvelle aventure ensemble. Il y a ces personnes qui prennent la parole pour la première fois pour raconter leurs conditions de travail et exiger que ça change. Il y a ces plantades sur lesquelles on revient parfois en grinçant un peu des dents et parfois en riant. Il y a ces mots de courage et d'encouragement qu'on s'envoie. Il y a ces doutes et ces rires qu'on partage. Il y a ces surprises qu'on se propose. Et il y a cette certitude qu'en 2022, on continuera à faire de notre mieux.
Ce qui me donne de la force, c'est de lire de la science-fiction. Les histoires inventées me permettent de décrocher du réel et du quotidien, mais aussi que ce style d'anticipation permet de critiquer le système dans lequel on vit. Aussi parce que depuis plusieurs années, je peux lire des autrices féministes trans qui ont des préoccupations proches des miennes sur des enjeux d'émancipation et aussi des personnages qui me donnent l'impression d'être des potes à moi. Et ça change tout. De lire de la fiction fabriquée par des pères. C'est une manière puissante, je trouve, de valoriser nos vécus et nos manières de faire et de se dire qu'on n'est pas seul à se battre contre des fantômes. J'ai déjà parlé dans d'autres émissions de Lizzie Krodegger et de Sabrina Calvo, qui sont deux autrices géniales. Je vous recommande là un livre de Saul Pandelakis, qui a publié fin 2021 la séquence Artman. C'est le premier auteur trans et féministe qui est publié en français que je lis. Et j'ai été troublée de me sentir aussi proche de ces personnages et des enjeux politiques amenés dans le livre, notamment sur les questions d'intersectionnalité et de lutte. C'est un univers très dystopique, de moins en moins d'humains, car la planète est trop polluée pour que les procréations continuent. Il y a numériquement plus de robots humanoïdes, mais ce sont encore les humains qui font les lois, et ces lois discriminent les robots ou bots. Tout est rationné, de l'eau à la taille de l'appartement avec un système de points reliés à une note sur un objet connecté que tu as en permanence sur toi. Plus tu as de points, plus tu as de bonifications et moins tu en as, moins tu as de possibles de survie. Tout est contrôlé et tu te fais arrêter si tu dors dehors ou dans un squat. Et tout le bouquin, c'est également sur les enjeux de lutte et de comment se battre dans ce monde-là. Je vais vous lire un extrait. Elle relève le nez et voit Zahir rentrer dans la pièce. Reconnecte avec ce sentiment gourd de ne rien pouvoir faire pour lui. Elle le connaît trop bien pour espérer que ça se desserre ce soir. Faut que le temps passe, que l'orage éclate, qu'il regarde des médias en façonnant un canapé avec des oreillers. Faut que le mauvais air de Damien s'évapore. Faut juste être patiente. Il se plante devant elle. Tu me trouves con à vous. Quoi, pourquoi ? D'avoir fini en garde à vue ? C'est pas exactement de ta faute, pourquoi je te trouverais con ? Compte de ne pas t'avoir appelé, compte de ne pas avoir utilisé Sleepover en dernier ressort. Sleepover ou le sommet de l'hypocrisie. En demandant un logement dans cette application, on était assuré d'en avoir un pour la nuit. C'était du pur temporaire, de l'accès très limité à un appartement, boîte à chaussures, avec le strict minimum. À l'origine, Sleepover bidait des logements inoccupés. Ça permettait que personne ne se retrouve plus jamais dans les rues ou sous les ponts, comme cela était arrivé à une autre époque. Sur le papier, ça pouvait paraître intéressant. Bien sûr, Sleepover avait gagné beaucoup d'argent et avait capitalisé sur cette économie du dernier recours, principalement en construisant en périphérie de grands ensembles saturés de microcellules. Les appartements inoccupés du centre avaient été valorisés autrement. Unique proposition, la machine à dormir, et pour les insomniaques, attendre que vienne le jour prochain. Mec, je te reprocherai jamais de ne pas utiliser ce truc. Je dis pas que tu me le reproches frontalement, juste je sais que tu penses que j'aurais pu et même dû faire tout ça. Et alors si je l'ai pensé ? Je sais que tes options sont réduites, Zahir, et on sait très bien pourquoi elles le sont. Parce que je joue pas le jeu ? Non, parce que le jeu craint. Parce que le monde dans lequel on vit craint. Après, je sais pas quoi te dire. D'une certaine manière, faire le choix du confort une seule fois, de l'autopréservation, est-ce que c'est ça qui va annuler ton engagement dans les luttes ? Il la rejointe sur les couvertures, un peu à distance. Voilà, ça c'était un extrait. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est jamais manichéen. Saul Pendeakis tente toujours plusieurs biais. Il dessine aussi l'histoire de l'autonomie des bots, des robots, petit à petit, par le biais de l'exploitation, de la subordination, puis de l'aliénation humaine, et enfin des luttes, des choix et de l'émancipation. Et puis là, si j'en reviens aux paroles dites qui donnent de la force, il y a ces conférences à l'énorme salon ultra-mainstream de science-fiction Les Utopiales 2021, où enfin, ça causait féminisme au pluriel et de manière complexe, et même transféminisme. Cette conférence où j'étais tellement énervée que Morgan Stankiewicz, autrice et éditrice, et Saul Pendeakis expliquent les transidentités pour les nuls, plutôt que de parler de leur sujet de conférence, des liens entre les mouvements queer et les littératures de l'imaginaire, ce qui était l'intitulé initial. Donc merci à vous deux d'avoir pris ce temps de la pédagogie. Encore et toujours, il est indispensable et pour une fois c'était payé. Merci surtout d'avoir pu balancer vos idées dans d'autres conférences et d'avoir tenu tête à des auteurs qui mésestiment les points de vue situés. C'est des moments comme ça qui fabriquent notre histoire et qui transforment la grande, celle avec son H majuscule méprisant.
Est-ce que tu peux nous rappeler la référence du bouquin ?
Donc c'est la séquence Hartmann de Saul Pendeakis aux éditions Götter.
Trop bien. Et aujourd'hui, on ne vous a pas fait de programme, mais la suite, en fait, c'est un petit pâté de campagne qu'on voulait faire, une nouvelle rubrique dans ces infos choisies, puisque en fait, on en entend parler tout le temps, et nous, on veut en faire du pâté. On s'écoute ça tout de suite.
Jingle.
Bientôt, dans quelques semaines, quelques mois, sera élu un nouveau président, une nouvelle présidente de la République.
Ce pâté.
Nos régions ont du talent.
Pâté croûte. Pâté croûte.
C'est la grande course au n'importe quoi.
Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui ?
Je vous le dis, ce n'est pas responsable.
Pâté de campagne, la chronique sur la campagne présidentielle 2022. Pour moi, ça a commencé comme ça, 1er janvier. J'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron pour ses vœux 2022. Je dois avouer que j'ai une petite passion pour les discours des gens du gouvernement parce que ça permet de prendre la température et toujours de constater qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Cette fois-ci, je me suis demandé si le président de la République avait fumé la moquette ou vivait dans le même pays que le nôtre. Je vous laisse écouter.
Être un citoyen libre et toujours
être un citoyen responsable pour soi et pour autrui. Les devoirs valent avant les droits.
L'avenir me donne plus de devoirs que de droits.
Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur.
Bon, bah là, on va sortir les violons.
Car lorsqu'il est rassemblé, rien ne peut résister au peuple français. Restons unis, bienveillants, solidaires. Restons du côté de la vie. C'est là ce que nous nous devons à nous-mêmes. Alors, 2022 sera l'année de tous les possibles.
C'était le premier pâté de campagne. Et pour finir, une petite devinette. Qui a dit hier, en tout cas, on a pu lire dans la presse écrite, la Provence très précisément, vouloir ressortir les Karchers de la cave pour nettoyer les quartiers. Et non, ce n'est pas Sarko. Eh bien, on vous laisse trouver la réponse, c'est assez facile.
Ah zut, moi je ne l'ai pas.
C'est Valérie Pécresse.
Oh là là, Valérie, ouais. Valérie.
Merci pour ce premier pâté de campagne.
Waouh, c'était trop bien. Au moins, ouais, ça fait rigoler.
Beaucoup. Je crois qu'ils n'écoutent pas.
Sûr, on les a perdus.
Oh, t'écoutes ou quoi?
On est là.
Viens.
Ouh, oh, t'écoutes ou quoi?
On est là. Viens. C'est bien.
Allez, viens aux infos choisies de 12h30, c'est bien. Vous êtes toujours sur Radio Galère. Il nous reste un quart d'heure et on voulait aborder une petite réforme qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et qui concerne la tarification des urgences hospitalières. Par cette réforme, le gouvernement entend simplifier la tarification des soins. En réalité, cette mesure va surtout pénaliser les patients, les patientes les plus précaires, sans mutuelle, et dissuader les passages aux urgences. L'association Médecins du Monde s'inquiète et dénonce ce forfait patient urgence dans un communiqué de presse publié le 4 janvier et qu'on va vous partager. Mise en place depuis le 1er janvier, le forfait patient urgence s'apparente à une véritable barrière financière pour les personnes les plus précaires, se rendant aux urgences faute de prise en charge adaptée ou encore faute de trouver un médecin traitant. Le forfait patient urgence prévoit le règlement d'un tarif unique de 19,61 € en cas de passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation et sera à la charge des patients si ceux-ci ne disposent pas d'une complémentaire santé. Un tarif minoré est prévu pour certaines catégories de patients, donc c'est notamment les femmes enceintes après le 6e mois, les bénéficiaires de l'allocation longue durée et je ne sais plus qui d'autre, ainsi que des exonérations. Ce forfait va augmenter les inégalités en impactant fortement des publics sans droits ou avec des droits au rabais déjà éloignés des soins. C'est le cas des 3 millions de personnes sans complémentaire santé, pourtant particulièrement fragiles et vulnérables. Des personnes chômeuses, retraitées, des petits indépendants. C'est également le cas des personnes ayant droit à l'AME, l'aide médicale d'État, mais qui n'en bénéficient pas, c'est-à-dire qui n'ont pas réclamé leurs droits. Sont aussi concernés un nombre croissant de personnes exclues pour des périodes de plus en plus longues de toute protection maladie. Que ce soit la sécurité sociale de base, la complémentaire santé solidaire ou l'aide médicale d'État. Depuis la réforme très restrictive de fin 2019 et malgré des conditions de vie très dégradées. Par ailleurs, certaines personnes sont aussi dans l'incapacité d'avancer la somme demandée. Un large public va donc être impacté par cette mesure et les risques sont connus. Renoncements aux soins, retard dans la prise en charge des plus démunis, et augmentation des inégalités. Le système de santé est déjà à bout de souffle et les urgences représentaient un des derniers recours pour des personnes n'ayant pas de prise en charge ou de médecin traitant, comme dans les déserts médicaux par exemple. Les urgences débordées sont un des symptômes de la crise du système de santé. Hôpitaux au bord de l'effondrement, manque de personnel soignant, désertification médicale, manque de régulation de la médecine de premier recours. La mesure est comptable, alors que la résolution du problème demande un changement de paradigme majeur. De plus, cette mesure cible le paiement par les patients et leur éventuel complémentaire, alors même que de l'autre côté, l'État organise des restrictions dans l'accès aux droits des plus précaires, et ce, dans une période de pandémie sans précédent. Le docteur Karine Roland, qui est présidente de Médecins du Monde, explique que le forfait patient urgence va pénaliser les personnes déjà en situation de précarité et qui ont tendance à renoncer aux soins. Cela va avoir un effet dissuasif et éloigner encore un peu plus ces personnes des lieux de soins. Ce que nous voulons va à l'encontre de cette mesure. Un égal accès aux soins pour tous qui serait rendu possible par une sécurité sociale réellement solidaire, inclusive, universelle et avec un haut niveau de remboursement.
Eh ben, on va enchaîner ces infos choisies. C'est un peu flippant tout ça concernant les urgences. On restera dessus, on fait une veille hein, de toute façon sur ces infos-là. Et on vient remercier les camarades qui nous ont partagé le son qu'on va vous diffuser tout de suite.
Ce 19 décembre 2021 avait lieu le second tour de l'élection présidentielle au Chili. Cette élection opposait la coalition de gauche représentée par Gabriel Boric, candidat de 35 ans issu des mouvements étudiants de 2011, face à l'extrême droite de José Antonio Kast, 55 ans, avocat d'extrême droite et défenseur historique de la dictature Pinochet. Ce scrutin a lieu 2 ans après le début de la révolte sociale d'octobre 2019 et pendant les processus d'écriture de la nouvelle constitution chilienne. Cette nouvelle constitution vise à remplacer la constitution écrite sous la dictature de Pinochet et a été largement plébiscitée malgré les résistances de la droite et des secteurs conservateurs. Ce 19 décembre 2021, je suis montée depuis Marseille à Paris pour aller voter. Dans la file d'attente du lieu de vote, j'ai récolté la parole de plusieurs Chiliennes et Chiliens venant des 4 coins de la France pour participer à ce moment si crucial de l'histoire politique du Chili.
Nous sommes maintenant au boulevard Victor Hugo, dehors de l'école Luis Buñuel. C'est le lieu où des votations sont en train d'avoir lieu pour l'élection du président du Chili. Et est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens pour voter?
Aujourd'hui, je suis ici. Je suis venue depuis Toulouse. Après, j'ai passé par Nîmes. Et maintenant, je suis ici. Demain, je pars à Barcelone. Et c'était vraiment un effort pour arriver ici parce que voilà, c'est important de pas se laisser avoir.
Yo vengo desde Estrasburgo, desde Alsacia.
Je viens de Strasbourg, d'Alsace, et j'ai eu de la chance de trouver des billets de train. Je viens d'ici, de Paris, mais je suis de Iquique.
Vine en auto, me
demoré. Je suis venu en voiture et j'en ai eu pour 7 ou 8 heures. Je viens de Marseille et je pensais pas venir parce que les tickets étaient trop chers. Mais avec les amis, on a fait une cagnotte et la moitié du vote appartient aux amis et l'autre moitié à moi.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo poder.
Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu ferais si Boric gagne?
Ah, je serais très content parce que c'est surtout pour l'autre candidat qui est un supporter de Pinochet. Il défend la dictature et au Chili il y a un processus démocratique très important parce qu'on va changer la constitution et le candidat Boric c'est lui qui défend ce processus. Et le candidat de la droite Kast, il veut casser tout ça, alors c'est important qu'il passe pas.
Qu'est-ce que je ferais si Boric gagne? Me mettre au service du projet politique, me mettre au service de ce qu'il veut faire au gouvernement. Je suis militant du parti de Gabriel Boric, Convergencia Social. C'est un projet politique qui s'est construit en peu d'années. On vient du mouvement étudiant. Depuis qu'on est lycéen, on était appelés les Pingouins, pas moi. Après, c'était l'université en 2011. Tout ce processus a été construit et décante aujourd'hui dans un projet politique qui amène notre candidat à cette élection présidentielle. Mais j'aimerais que ça reste anonyme, mon choix, mon vote. C'est pour ça que je te demande, si Boric gagne, qu'est-ce que tu ferais? Mais c'est une question avec un piège.
Ay, lo primero, celebrar con mucha alegría porque sería realmente recién
tout d'abord,
el comienzo
célébrer
de
avec
la
beaucoup de joie,
la verdadera democracia,
car ce serait réellement, maintenant, le début de la transition à une véritable démocratie et à un gouvernement que j'appellerais social-démocrate, qui veille pour le peuple et que le peuple obtient réellement la dignité
libre,
pour vivre de façon digne, avec une éducation libre,
pública,
inclusive, publique et de qualité.
Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen...
¿Qué es que tu ferais si Castil gagne?
Ah, si Castil gagne, je tombe en dépression.
Bueno, primero, mi primera emoción sería llorar. Llorar por mi pueblo ignorante.
Ma première émotion, ce serait de pleurer. Pleurer pour mon peuple ignorant. Pleurer pour mon Chili désinformé. Pleurer pour mon Chili qui voit seulement le matérialisme individualiste. Et pleurer pour l'ignorance de ceux qui ne se rendent pas compte de la situation triste et néfaste qui va nous arriver. Qu'est-ce que tu fais si Cast gagne?
Mira, ni siquiera quiero pensar.
Premièrement, je ne veux pas penser à ça, car ça serait une honte terrible. Une déception, quelque chose de catastrophique.
Ce
serait une marche arrière importante.
Si ganara Casta.
Si Casta gagne, ah.
Si hay una probabilidad,
oui, il y a une probabilité, et il faut l'avoir en tête.
Primero, no volvería a Chile.
Premièrement, je reviendrai pas au Chili.
Que no volvería a Chile.
Oh, oh, quelle non. Tristesse pour les gens qui habitent là-bas, plus que pour nous, parce que nous, on est en dehors, mais quand même, c'est une grande tristesse. De nouveau, le fascisme au Chili. Ah non, mais c'est impensable. Je crois que les gens, ils vont se réveiller, ils ne vont pas laisser faire ça. Ce n'est pas possible. Moi, pour moi, c'est... Non, je refuse.
Après tout ce qu'on a vécu, moi, je suis un ancien prisonnier politique. Ça veut dire que moi, j'ai connu la torture, j'étais disparu. J'ai vécu en prison entre 73 jusqu'à 76. 76, j'ai arrivé en France. En principe, j'étais condamné à 9 ans de prison. Mais la pression internationale contre l'Italie, elle était très forte. Donc, ils nous ont permis de quitter le Chili, mais à l'exil, forcé. Donc, c'est pour ça que nous, on tient à la victoire de Boric. Et à la liberté, parce que nous, on sait qu'est-ce que c'est vivre
sans liberté
et dans une dictature dure.
Hier, j'étais à Paris à faire un peu des entretiens pour voir un peu, pour partager un peu les sensations des gens qui étaient dans la queue, qui s'apprêtaient à voter, qui étaient venus partout. Et maintenant, du coup, on est à Marseille avec quelques Chiliens et Chiliennes qui sont là, avec lesquels on se retrouve pour partager. Maintenant qu'on sait qu'il y en a un nouveau président et que ce nouveau président s'appelle Gabriel Boric. Est-ce que tu voudrais partager avec nous tes sensations sur les résultats des élections? Comment tu te sens?
C'est une grande émotion, beaucoup d'émotions, et surtout quand depuis le début, on nous a dit que c'était 2011 tout le projet, le changement, de changer le Chili, la constitution, c'était pas possible. Et là, y arriver petit à petit avec les 10 dernières élections.
À partir de 18h, j'ai commencé à suivre avec la télé chilienne. Et la sensation que j'ai, c'est d'avoir suivi un match de foot qui durait des heures, des heures, des heures.
Moi, je pense que justement, il y a une partie de la population chilienne qui a vraiment cru, qui croit, en tout cas, dans cette génération de jeunes qui font politiciens pas des carrières, en tout cas pas des professionnels de la politique, mais des jeunes qui se sont retrouvés avec les mouvements sociaux, étudiants notamment. Là, c'était un groupe social auquel appartient Boric. Mais la plus grosse partie de la population, en tout cas celle où je me reconnais, moi et mes amis, et c'est des personnes qu'on n'y croit pas en lui, qu'on se méfie énormément, qu'on pense qu'il nous a trahis déjà à la base, avant d'être candidat à la présidentielle. Et lorsqu'on demandait dans les rues fermement, et on avait tout pour plier le gouvernement à ce moment-là, on était des millions et des millions dans toutes les rues de Chili. Et à ce moment-là, Boric, il a signé un traité pour la paix, entre guillemets. Et à ce moment-là, il a trahi déjà les peu qui n'auraient pu avoir eu confiance. Déjà qu'il n'avait aucune représentativité, il était parlementaire à ce moment, mais il n'avait aucune représentativité. Dans les rues, c'était pas un porteur de parole, rien du tout. Et c'est pas que lui, hein, mais lui et une poignée de parlementaires se sont sentis avec le droit de représenter le peuple, se sont enfermés à huis clos avec le gouvernement pour signer cet traité qui nous a coûté très cher, et surtout à tous les camarades qui sont enfermés en prison préventive depuis bientôt 2 ans pour certains.
Je voulais juste qu'on mesure la côté historique de ce qui est en train de se passer là-bas. C'est-à-dire que dans un pays qui a vécu le néolibéralisme depuis 40 ans, au bout de ces processus-là, et dans ce qui se passe autour du monde en général, qu'est-ce qui se passe au Chili ? Ok, il y a des manifestations dans la rue, hyper engagées, hyper violentes. Il y a une nouvelle constituante qui se forme, donc une nouvelle constitution, où il y a la présidente qui est un féministe, indigène, de gauche, etc. Enfin, pour moi, c'est un côté historique immense.
C'est cantam un poquito.
Ya bon. Vamos, cantam.
Gabriel Boric va entrer en fonction le 11 mars 2022. Il a remporté l'élection avec plus de 55% des votes. Cette capsule radiophonique cherchait à rendre sensibles les impressions de quelques Chiliens et Chiliennes vivant en France. Vous avez pu écouter différents morceaux de musique. Respira, d'Anita Tijoux, et l'autre Chile, de Portavoz, Millones, de Camila Moreno, et on vous laisse avec la chanson de Violeta Parra, Miren cómo sonríen los presidentes. Regardez comment les présidents sourient. Cette chanson nous invite, quand même, à toujours nous méfier des professionnels de la politique soutenus par leur armée des bureaucrates.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente.
Et voilà, et malheureusement, on n'a pas le temps de laisser cette musique puisqu'on arrive sur la fin des infos choisies. On va quand même terminer avec un petit agenda pour, si vous ne savez pas quoi faire ces prochains jours. Il y a de quoi faire. Demain à 14h30, une manif de soutien contre l'expulsion de la ZAP de Pertuis se tiendra donc à Pertuis sur un des ronds-points. On ne sait pas précisément où, mais vous trouverez forcément. Et donc, c'est pour lutter pour la sauvegarde de la plaine de la Durance. C'est demain à 14h30 à Pertuis. Dimanche à 9h est proposée une balade historique politique des années coloniales autour de la corniche Kennedy de Marseille. Donc c'est ce dimanche 9 à partir de 10h, c'est organisé par le CIRA et le rendez-vous est fixé devant 1000 Babord, c'est 61 rue Consola dans le premier et c'est prix libre. Et puis mardi 11, le social brûle, le collectif 13 des salariés du social et du médico-social appelle à un rassemblement. Rendez-vous à midi pour un pique-nique devant le conseil départemental et à partir de 14h, c'est le rassemblement en question. Le conseil départemental, c'est dans le 4e, c'est derrière le Dôme, 52 avenue Saint-Just. Et puis enfin, dernier rendez-vous dont on voulait vous faire part, jeudi 13 à 18h30 à Darlamifa, donc rue d'Aubagne. Une écoute de témoignages de personnes qui ont subi les blocages aux frontières dans les Balkans aura lieu, suivie d'une discussion et d'un bon repas chaud, nous dit-on. C'est à partir de 18h30, jeudi prochain, à Darlamifa. Et voilà pour cet agenda.
Et peut-être tu peux préciser que pour la balade de dimanche, il faut prendre le pique-nique parce que c'est toute la journée.
Ouais, ça dure une grosse partie de la journée pour la balade qui n'est pas dite décoloniale, mais dans cette idée, voilà. C'est balade historique politique des années coloniales autour de la corniche, 10h jusqu'à la fin d'après-midi. Voilà, on se dit au revoir.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Bye bye, bonne semaine.
Midi 30 vendredi. Salut, ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.